Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Comme je voudrais une église pauvre pour les pauvres, lancé à peine élu le pape François dans la salle Paul VI devant un parterre de journalistes du monde entier. Une église pauvre, qu'est-ce à dire? L'église est-elle réellement pauvre? Parmi les Français, une majorité d'entre eux serait convaincue du contraire. Alors qu'en est-il? Mais plus largement, au-delà de la pauvreté matérielle, quelle place l'église fait-elle aux plus pauvres? Se sent-elle elle-même pauvre? C'est ce que je vous propose de voir ensemble ce matin. Voilà, donc pour cette émission Vivante Église, une église pauvre pour les pauvres, qu'est-ce à dire? Voilà, Sébastien Combre qui est présent au plateau me fait remarquer que je fais souvent cette interrogation, donc je vais veiller à ces formulations. Voilà, donc une émission, peut-être avant de vous présenter, dire donc cette émission est en partie faite pour annoncer donc une grande veillée qui a lieu à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse, lundi prochain, le 17 octobre, à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Autour du plateau, il y a Sœur Anne. Vous êtes sœur de la Bonne Nouvelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Sébastien Combre, donc, que je viens de citer, qui est responsable du service de la diaconie pour le diocèse de Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Corinne Boylet, donc, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, qui est secrétaire générale adjointe de la Conférence des évêques de France, en charge des questions économiques et juridiques. Thierry Seguin, qui est économe du diocèse de Montauban. Et nos invités, j'allais dire surprise, non, nos invités d'honneur, Claudine Martin, vous êtes membre de la famille Bartimée et du groupe Place et Paroles des Pauvres, bonjour.
Bonjour.
Et Corinne Battista, vous êtes chrétienne du Quart-Monde, membre de la Bonne Nouvelle Quart-Monde et déléguée pour le 17 octobre, bonjour.
Bonjour.
On va commencer avec vous, Sœur Anne. Donc je citais cette phrase du pape François qu'il a lancée au tout début de son pontificat. On peut dire qu'il y a deux choses peut-être qui ont frappé au début de son pontificat. C'est quand il, en dehors du nom qu'il a choisi, évidemment, parce que c'est le premier pape à avoir choisi le nom de ce grand saint. C'est quand il s'est incliné pour demander la prière, place Saint-Pierre de Rome. Et c'est quand il a fait cette déclaration, quelques jours après, devant un parterre de journalistes. Vous, quand vous avez entendu ça, vous vous souvenez de cette déclaration, je sais pas, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous êtes dit enfin un pape qui nous comprend.
Oui, exactement, c'est vrai. Et puis la suite nous a confirmé que c'est vraiment un pape qui essaye, en tout cas qui permet que les pauvres aient leur place. Quand on a préparé notre rencontre avec lui en janvier 2015, plusieurs disaient, mais ce qu'il dit, c'est déjà ce qu'on pense nous. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Et il disait, ben, il faut l'aider pour qu'il puisse vraiment continuer et que toute l'Église puisse réellement nous accueillir, quoi.
Alors, peut-être vous pouvez présenter brièvement Bonne Nouvelle Quart-Monde, parce que tout le monde ne vous connaît pas ou n'écoute pas, les sœurs de la Bonne Nouvelle, tout le monde n'écoute pas Vivante Église tous les jours. Pour ceux qui n'écouteraient qu'aujourd'hui, dites-nous un mot, vous êtes des religieuses, on va dire, enfin j'allais dire à part, en tout cas avec un apostolat un peu particulier.
Nous nous sommes fondés justement pour que les plus pauvres puissent vraiment vivre leur foi et qu'ils trouvent leur place dans l'Église.
D'accord. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, je le dis tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous vivez avec des gens qui sont du quart monde, vous vivez en amitié avec eux?
Déjà, on habite un quartier qui est considéré comme défavorisé, mal considéré, enfin, etc. Et quelque part, on montre qu'on est solidaire d'eux, qu'on veut les connaître davantage. Et ensuite, on les rassemble pour qu'ils puissent vraiment vivre leur foi ensemble, découvrir qu'ils ont quelque chose à apporter au monde et à l'Église. Et voilà, parce que ici en France, ils sont très dispersés.
Y compris à Toulouse ou en Occitanie.
À Toulouse, voilà, où ils sont dans différents quartiers. Souvent au milieu un peu isolé au milieu de beaucoup d'immigrés de différentes nationalités, différentes religions.
Alors donc vous êtes allé donc avec d'autres, puisque je disais en fait je vous ai mis sous le label la famille Wrzesinski. Alors peut-être qu'il faut dire un mot aussi de Joseph Wrzesinski. Donc vous êtes allé à plusieurs, la Pierre d'Angle, Bonne Nouvelle Carmonde, Bartimée, Le Sapel, rencontrer donc le pape François cet été. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette ce que j'ai appelé la famille Wrzesinski, et puis nous dire je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc vous avez rencontré le pape François, et puis on donnera la parole aussi à nos autres invités.
Oui, donc on s'appelle la famille Wrzesinski parce que on a tous été formés, forgés par la pensée et les intuitions du père Joseph Wrzesinski, qui était un homme qui a été lui-même dans la misère et donc qui a apporté ce qu'il avait vécu de l'intérieur. Comment est-ce qu'on vit la misère quand on y est de l'intérieur?
Et alors oui, il faut redire un mot en fait. Qui est Joseph Wrzesinski aussi peut-être?
Le père Joseph Wrzesinski, il est né en 1917. C'est pour ça qu'on est allé d'ailleurs à Rome pour fêter le centenaire de sa naissance. Il est né d'une famille donc très pauvre dans la région d'Angers, et il a été il a été très marqué dès son enfance par la misère, quoi. Et puis en 1957, il a fondé le mouvement ATD Carmonde, parce que il avait été envoyé comme aumônier dans le camp de Noisy-le-Grand, qui avait été fondé par par l'abbé Pierre. Et là, il a tout de suite pensé que l'important, c'était... Il a vu que les gens étaient complètement assistés, on leur donnait beaucoup de choses, etc. Et que, en fait, ce qu'il fallait, c'est qu'ils prennent leur vie en main, et en particulier, il fallait leur donner la culture et, justement, la foi, enfin, leur permettre de vivre leur foi. Il a tout de suite créé une bibliothèque et une chapelle dans ce camp de Noisy-le-Grand, voilà.
Alors donc du coup ça a donné ATD Carmonde, qui aujourd'hui donc n'est plus une ONG, on va dire, chrétienne, mais il y a une famille, une espèce de famille spirituelle donc autour de la figure du père Wrzesinski. Et donc cette famille spirituelle, les groupes que j'ai cités plus avant, donc sont allés rencontrer le pape François. Alors pourquoi vous êtes allés rencontrer le pape François, et puis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette rencontre? C'était donc cet été. C'est pas courant d'avoir des gens qui ont rencontré le pape François, donc on en profite.
Donc déjà, ces quatre associations, ont toutes été fondées par d'anciens volontaires d'ATD Carmonde. Hein. Mais le mouvement nous a demandé d'être indépendants d'eux, parce que prendre vraiment cette dimension à l'intérieur de l'Église. Et donc nous avons voulu essayer de rencontrer le pape François, donc comme disaient les personnes du Carmonde, pour l'aider dans sa mission, pour lui dire qu'on était à ses côtés, etc. Et aussi pour lui demander à lui une mission. Alors ça a été très difficile en fait pour nous. On a essayé par différents biais, voir comment on pourrait le rencontrer, d'obtenir un rendez-vous. Voilà. Finalement, c'est grâce à Monseigneur Barbarin qu'on a pu l'avoir, parce que il a eu l'opportunité de lui remettre en main propre notre lettre. Voilà. Et ça, on l'a su pratiquement qu'un mois avant de partir. Et encore la veille, on savait pas si on serait reçu uniquement nous ou plus. Et finalement, on a été reçu uniquement nous, le groupe des 200 personnes, et il nous a reçus de façon très...
Donc c'était quel jour? Vous étiez combien? Vous avez passé combien de temps avec lui?
Donc le 6 juillet 2016. Et on a passé pratiquement, il nous a consacré 1h15. Donc avec un temps où les gens lui ont donc dit leur message en lui demandant une mission. Ensuite, il nous a donné cette mission avec un long aussi discours. Et puis ensuite, il est descendu, on lui a remis un beau livre,
qu'on a ici en plateau, mais qu'on peut pas montrer puisqu'on est à la radio.
Oui. Voilà, avec des très belles gravures qui avaient été faites par un atelier avec des personnes très pauvres, et puis aussi toutes l'expression de qui avait été dite au cours de l'année dans les différents groupes autour de la miséricorde. Donc c'est toutes les expressions des familles très pauvres. Voilà. Et ensuite, il est descendu et il est venu saluer chaque personne, et il a été présent à chaque personne.
Alors avant que vous nous disiez un petit peu plus, nous lisiez des passages, où vous nous disiez ce qu'il vous a dit, et puis quelle mission il vous a confié à tous, vous étiez, je crois, l'une et l'autre, non? Oui, donc à cette rencontre. Alors dites-nous, on va commencer avec vous, Corinne Battista, Je sais pas, c'est pas rien de voir le pape, vous avez de la chance.
Mais en plus, moi j'étais une des personnes qui a lu une partie du texte. Heureusement, j'étais la dernière parce que les autres sont passés avant moi. Ça m'a permis de me déstresser un peu avant.
C'est pire que passer à la radio, à Radio Présence.
Oui, parce que le problème, c'est que j'ai commencé à lire le texte. Je ne l'avais pas regardé, c'était bien. Mais à un moment, j'ai voulu lever les yeux. Et j'ai eu du mal à reprendre mon texte tellement que j'étais émue parce que je voyais que... Je sais qu'il ne comprenait pas beaucoup parce que je parlais bien sûr en français, c'est ma seule langue. Mais comme je savais qu'il avait lu avant... Donc je savais, il savait de quoi je parlais et on voyait qu'il faisait très attention à ce qu'on disait et ça c'est formidable. Et puis en plus quand il est descendu pour venir à chacun de nous nous saluer, ça a été une grande émotion, surtout que moi quelques jours avant j'ai téléphoné à ma grand-mère pour lui annoncer comme quoi j'allais, j'ai dit peut-être le voir, et il m'a demandé un service et de quand je serrais les mains du pape de penser à elle. Et donc quand j'ai serré la main du pape, en disant qu'on était deux à le faire, puisque j'avais ma grand-mère dans mon cœur.
Claudine Martin, c'est pareil, je sais pas, racontez-nous que, la manière dont ça s'est passé ou dont vous l'avez vécu.
Je le vis encore, hein, je le vois comme si je vous vois vous. Et le pape, il m'a fait beaucoup de trucs, parce que comme j'étais la seule, mon mari devait venir, il n'a pas pu venir le voir. Et c'est vrai que c'est comme si je voyais Jésus devant moi. C'est lui qui représente Jésus et tout ça, et il sera toujours dans mon cœur.
Alors, Sœur Anne, donc le pape François, donc vous avez dit deux choses. La première, c'est que c'était important pour vous de le rencontrer, pour en partie le soutenir dans sa mission. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la première intention? Enfin, qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait? Et est-ce que c'était la première intention que vous aviez en allant voir le pape François? Est-ce que la première intention, c'était de le soutenir? Vous avez dit ça tout à l'heure. Est-ce
oui, que, oui, c'est voilà, ça.
Et qu'est-ce que vous voulez dire par là, en fait?
C'était de lui dire, oui, vous... Bon, les gens lui ont dit...
Allez-y, continuez.
Les gens lui ont dit, nous sommes un groupe de 200 personnes et tous les jours, nous remercions le Seigneur notre Dieu de nous avoir donné un pape comme vous. Maintenant, nous savons que notre place est dans l'Église.
Voilà, Sébastien, qu'on vous avait un commentaire là-dessus.
Moi, je crois que la seule intention qu'il y avait au départ, c'était de se dire, par les responsables... de chacun de ces groupes, la seule intention c'était de se dire les pauvres ont quelque chose à dire et ils vont le dire. Et on a travaillé pendant 2 ans. C'est-à-dire que quand on dit on veut aider le pape, c'était pas les responsables qui ont pensé ça dès le départ. C'est-à-dire qu'en réunissant les gens, d'abord chacun dans nos villes respectives et ensuite une délégation de 50 à Issy-les-Moulineaux un petit peu un an avant de partir, que ce texte a été écrit et que ces intuitions sont nées. L'intuition de départ, c'était les pauvres ont quelque chose à dire au pape et ils vont le dire.
Alors, Sœur Anne, le pape vous a répondu, quoi qu'il en soit. Quelle a été à gros traits la teneur de son message?
Alors, d'une part... Il s'est adressé vraiment aux personnes pauvres et il leur a dit « Je suis très heureux de vous accueillir. Jésus accueille chacun tel qu'il est. En lui, nous sommes des frères et je voudrais que vous sentiez combien vous êtes les bienvenus. Votre présence est importante pour moi. Il est important que vous soyez ici chez vous. » Et il leur a dit aussi vous donnez un beau témoignage de fraternité évangélique dans cette démarche commune de pèlerinage. Vous êtes venus en vous portant les uns les autres, les uns en vous aidant généreusement, en offrant de leurs ressources et de leur temps pour vous faire venir, et vous, les pauvres, donc, en leur donnant aux accompagnateurs, en nous donnant, en me donnant Jésus lui-même. Et ça, le pape, il l'a rajouté en nous donnant, en me donnant, il l'a rajouté sur son texte qui avait été écrit.
Alors, le pape vous a confié une mission. Quelle est la teneur de cette mission? Quelle mission il a confiée donc aux plus pauvres?
Alors, il leur a dit, je voudrais vous demander une faveur, plus qu'une faveur, vous donner une mission que vous seul, dans votre pauvreté, serait capable d'accomplir. Et alors, il part de ce que Jésus dit dans les Béatitudes, qu'il a dit « Bienheureux les pauvres, ceux qui ont faim, qui pleurent, etc. » Mais il a dit aussi une autre parole qui, de sa part, fait peur. Il a dit « Malheur ». Et il l'a dit aux riches, aux repus, à ceux qui rient maintenant, à ceux qui aiment être loués, aux hypocrites. Et je vous donne la mission de prier pour eux, pour que le Seigneur change leur cœur. Et il leur dit bien, c'est vous seul dans votre pauvreté qui serez capable de l'accomplir.
Au commencement de l'Église, les chrétiens n'étaient que ferveur. C'est qu'ils quittaient tout sans remise, sans chicaner du fond du cœur. Leur pauvreté toute divine était cause de leur bonheur. Notre avarie, c'est l'origine de notre malheur. Ce qui fait le bonheur suprême des amis de la pauvreté, ce qu'ils reçoivent de Dieu même, 100 fois autant qu'ils ont quitté. Pour un père, ils trouvent 100 pères, et pour un ami, 100 amis. Le centuplant en toute manière, ainsi que Dieu leur a promis.
Pauvre est toute la vie,
pauvre est toute la vie,
de Jésus et de Marie,
de Jésus et Marie.
Pauvres au royaume, soyez
reçus les premiers.
Pauvres au royaume, soyez
les premiers. Ah mon Dieu, qu'il faut de sagesse pour voir que les biens sont trompeurs, puisque jusqu'au sage on s'empresse à l'acquérir pour son malheur. Tant il est vrai qu'on voit sur terre un nombre infini d'hommes fous qui souffrent tous, qui font la guerre pour les biens qui les damnent tous. Tandis qu'un riche sacrifie son temps, son repos, sa santé, pour le bonheur de l'autre vie, à ce métal d'iniquité. Il faut un saint, mais qu'il est rare, pour se garder de son poison. Il brille, il se glisse, il s'empare du cœur et de la raison.
Pauvre est toute la vie,
pauvre est toute la vie,
de Jésus et de Marie,
de Jésus et Marie.
Pauvres au royaume, soyez
reçus les premiers.
Pauvres au royaume, soyez
les premiers. Sachez qu'il est plus difficile qu'un riche de cœur entre aux cieux, qu'un chameau par un trou d'aiguille, tant au fond il est malheureux. Il est rempli d'idolâtrie envers son Dieu, son souverain. Il est rempli de barbarie pour son prochain. Ah que le riche est à son aise, qu'il a d'argent, qu'il a de biens. Tout lui rit et rien ne lui pèse, homme sage, je n'en croyais rien. Sa pauvre âme est toute rongée d'ennuis et de soins superflus. Elle est une mère agitée et qui ne se calmera plus.
Pauvre est toute la vie,
pauvre est toute la vie,
de Jésus et de Marie,
de Jésus et Marie.
Pauvres au royaume, soyez
reçus les premiers. Que j'ai peu connu votre grâce, chère pauvreté de mon Dieu. Mais maintenant je vous embrasse avec un cœur tout plein de feu. Voici la perle précieuse, voici le trésor si caché. Voici la vertu généreuse que j'ai si longtemps recherché.
Pauvre aller
d'allégresse,
pauvre amasser la richesse,
amasser la richesse,
qu'on ne vous ravira jamais.
Allez en paix.
Allez d'allégresse,
allez d'allégresse,
pour ramasser la richesse,
ramasser la richesse,
qu'on ne vous ravira jamais.
Allez en paix,
qu'on ne vous ravira jamais.
Allez en paix.
Présence. Emmanuel Pella.
Voilà donc cette émission ce matin, Vivante Église, sur une église pauvre pour les pauvres, qu'est-ce à dire, en vue de la prochaine, enfin lundi prochain, de la journée mondiale du refus de la misère et d'une grande veillée qui est organisée à la cathédrale Saint-Étienne à 18h30, veillée au cours de laquelle la parole sera donnée aux plus pauvres et qui seront mis à l'honneur. On en parlera à la fin de cette émission. Je vous rappelle qu'autour du plateau, il y a Sœur Anne, qui est sœur de la Bonne Nouvelle, Sébastien Combre, responsable du service de la diaconie pour le diocèse de Toulouse. Nous a rejoint Corinne Boylet, vous êtes secrétaire générale adjointe de la Conférence des évêques de France en charge des questions économiques et juridiques. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, un petit peu plus tard, enfin tout de suite, on va avoir au téléphone Thierry Seguin. Voilà, on l'a. Thierry Seguin, vous êtes économe du diocèse de Montauban. Bonjour.
Oui, bonjour.
Voilà, et autour du plateau aussi, Claudine Martin, qui est entre autres membre de la famille Bartimée, et Corinne Battista, chrétienne du Carmonde, membre de Bonne Nouvelle Carmonde. Alors, je voulais avec vous, avec les uns les autres aussi, poser des questions crues que se pose souvent le français moyen, en tout cas l'opinion publique, qui a souvent dans l'idée que l'Église reste riche en dépit du discours qu'elle tient ou des injonctions du pape François. J'ai cité donc cette Église pauvre pour les pauvres qui était son aspiration presque de fond qu'il a cité au début de son pontificat. Peut-être Corinne Boylet, avant qu'on parle de l'Église de France, moi j'avais un chiffre à citer. Je sais que c'est pas votre spécialité, alors du coup je le dis en préambule. À propos du Vatican, j'ai trouvé ça hier, le budget du Vatican est d'environ 500 millions d'euros. Alors ça a l'impression que c'est beaucoup, mais c'est le même chose que le budget de la ville de Bordeaux, et c'est deux fois moins que le Parlement français, voire trois fois moins que le Parlement européen, alors que c'est quand même un État. Sur cette question, avant qu'on rentre dans le détail de la richesse de l'Église, qu'est-ce que vous diriez en préambule ? Est-ce que de fait les idées préconçues ont la peau dure ?
Alors effectivement, les idées préconçues ont la peau dure, parce que cette idée reçue qui consiste à penser que l'Église catholique en France est riche est une mauvaise idée contre laquelle il faut lutter. Les charges de nos diocèses, hein, pour lesquelles je suis effectivement habilitée là à m'exprimer, sont de plus en plus importantes, à la fois en termes de nombre de prêtres, dont il faut assurer le traitement, des conditions de vie tout à fait adaptées et conformes, le soin aux prêtres âgés qui doit se faire jusqu'à la fin de leur vie dans toutes ses dimensions, à la fois matérielles, sanitaires, sociales, donc les conditions de logement, les conditions de soins, les conditions de santé qui sont nécessaires de mettre en œuvre, les salariés qui sont au nombre de 10 000 en France aujourd'hui, pour l'ensemble des diocèses, et qui constitue aussi une charge importante en termes de salaire. Et puis le troisième élément, c'est effectivement tout ce qui a trait à l'entretien des biens, à la rénovation des locaux. Certes, sur les 40 000 églises en France, nous avons à peu près 3 500 églises qui ont été construites après 1905, donc qui sont directement à la charge des diocèses. Mais il y a également des biens à usage pastoral, à peu près 30 000 en France, ce sont des presbytères, des salles paroissiales, des salles à usage pastoral qu'il convient de rénover, de mettre aux normes dans le cadre de l'accessibilité aux personnes handicapées, et tout cela représente des charges considérables. Et je termine mon propos pour rappeler que l'Église catholique ne vit que de dons de ses fidèles.
Alors c'est justement la question que j'allais vous poser. Faites attention à ne pas parler trop près du micro, si je peux me permettre. C'est justement la question que j'allais vous poser, c'est on a parfois dans l'idée, même parfois quand on est chrétien ou catholique pratiquant, que il y a de l'argent qui tombe de quelque part. Alors d'où vient l'argent de l'Église de France ? Est-ce que le Vatican vous fait un chèque régulièrement ou pas ?
Non, le Vatican ne fait pas de chèque, et l'Église en France, les ressources des diocèses et donc de l'Église catholique ne viennent que de la générosité des fidèles et uniquement de la générosité des fidèles. Voilà, donc c'est effectivement un enjeu considérable de pouvoir permanence dans le cadre des dynamiques pastorales qui sont mises en place au niveau local, au niveau diocésain et évidemment sous la gouvernance de l'évêque, de pouvoir faire comprendre et faire appel aux fidèles pour témoigner de la nécessité de ces collectes et de cette générosité pour pouvoir faire face aux charges, encore une fois, croissantes auxquelles les diocèses doivent faire face. Donc c'est un enjeu qui nécessite de la créativité, du dynamisme et évidemment une dynamique missionnaire et pastorale d'abord.
Alors il y a peut-être quelque chose qu'il faut préciser, c'est que enfin, par le passé, peut-être l'Église a pu être riche, mais aussi parce qu'elle avait, on va dire, une charge temporelle, c'est plus le cas, en tout cas normalement, de l'Église. Et puis il y a eu quand même deux grands événements, la Révolution française et la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Est-ce que l'Église, l'Église de France est plus pauvre qu'elle ne l'a jamais été? Est-ce que cette situation de pauvreté, on ne veut pas dire que l'Église est dans la misère, mais cette non-richesse, est inédite dans l'histoire, ou est-ce que c'est quelque chose d'assez nouveau?
Oui, alors bon, il faut rappeler qu'effectivement en 1905, qui crée la séparation de l'Église et de l'État, la charge de l'entretien des églises construites avant 1905 a été placée, et la propriété d'ailleurs de ces églises a été placée sous l'autorité de l'État. C'est la raison pour laquelle les communes, les collectivités publiques, l'État prennent en charge l'entretien et les rénovations éventuelles de ces églises. Nous avons à notre charge directe l'ensemble des églises, donc les quelques 3500 qui ont été construites depuis 1905 et qui correspondent donc à la nécessité de construire des églises dans un certain nombre de périphéries urbaines autour de Paris, autour des grandes métropoles françaises, et puis aujourd'hui dans un certain nombre aussi de départements d'outre-mer comme la Guyane par exemple, qui fait appel à la générosité de ses fidèles pour construire des églises nouvelles en raison d'enjeux de démographie et de population qui migrent dans certains lieux. Oui, moi je pense pouvoir dire que l'Église n'a jamais été aussi pauvre et n'a jamais eu autant besoin de la générosité de ses fidèles. Et également d'être dans la nécessité, et je pense notamment aux économes diocésains et au conseil diocésain pour les affaires économiques, d'être dans une très grande vigilance de gestion. Alors, à la fois...
Pardon, excusez-moi, allez-y, finissez votre phrase, je vous en prie.
Non, à la fois de créativité et de dynamisme pour aller chercher et collecter des ressources, et ça passe par des moyens nouveaux, digitaux, dématérialisés, par exemple, et puis également d'être dans des normes et des ratios de gestion de plus en plus fins et qui nécessitent que des décisions de gestion soient prises pour que la régulation de ces charges soit faite dans les meilleures conditions et que cet appel à la collecte puisse être sans cesse renouvelé et recréé, si je puis dire.
Alors, il y a une question quand même qui me brûle les lèvres, pardon si elle est un petit peu provocatrice. J'ai lu que le budget de l'Église de France, on va dire tout diocèse confondu, serait d'environ 600 millions d'euros. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait le chiffre, vous allez nous dire, mais c'est vrai que, ce sont des chiffres globaux qui peut-être pour une aussi grande structure, il y a autant de gens, tant de bâtiments, comme vous dites, à mettre aux normes, voilà, pour aussi la sécurité, le bien-être des gens, il y a des salaires à payer, il y a des gens évidemment qui font, j'allais dire, tourner la boutique, mais ça peut paraître des chiffres quand on n'a pas le sou, ou quand on est soi-même pauvre, ça peut paraître, c'est des chiffres qui peuvent apparaître énormes ou qui peuvent apparaître comme choquants. Alors comment tenir cette contradiction apparente?
Alors, c'est difficile de parler d'un budget de l'Église catholique. Il n'y a pas de budget. Le chiffre que vous évoquez, effectivement, c'est le chiffre des collectes, des ressources au titre de l'année 2014, qui est de l'ordre de 600 millions d'euros. Donc c'est l'ensemble de nos collectes, à la fois deniers, casuels, messes et legs. Bon. Après, les montants sont évidemment de nature extrêmement différente pour les diocèses. Moi, je voudrais pointer quand même le fait qu'aujourd'hui, nous avons 15 000 prêtres pour lesquels il faut, en France, assurer un traitement et, encore une fois, tous les aspects matériels matériel de leurs conditions de vie, là aussi dans les meilleurs formats possibles, 10 000 salariés qu'il faut effectivement payer, et puis donc tout ça représente quand même pas loin de 50% des charges des diocèses. Et puis ensuite, tout ce qui est lié à l'entretien des travaux, aux amortissements immobiliers, qui représentent à peu près 20% des charges. Donc nous avons...
Mais qu'est-ce que vous diriez à des gens, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui justement sont sans le sou et qui peuvent avoir parfois du mal à comprendre cela? On sait que, par exemple, le siège de la Conférence des évêques de France à Paris est un bel endroit, ça a coûté cher, parfois ça fait un peu polémique parce qu'on se demandait si c'était un investissement raisonnable. Comment... Qu'est-ce que vous diriez aux personnes, par exemple, qui sont en plateau et qui ne sont pas dans ces réalités de vie pour aider à comprendre ou pour aider à intégrer ces chiffres?
Alors, peut-être il faut effectivement préciser qu'il y a souvent cette image que l'Église en France est dotée d'un patrimoine immobilier considérable. Le patrimoine immobilier dont est dotée l'Église, c'est un patrimoine d'abord parfois issu de legs, de donations. Enfin, il faut savoir aujourd'hui que la loi impose de revendre ces immeubles et ne nous permet pas, sur un plan strictement juridique, d'avoir de l'immobilier de rapport. Donc c'est déjà un frein aussi assez considérable à la pérennisation de nos produits, et que la majorité, enfin la totalité de ces biens immobiliers est dédiée à un usage pastoral, y compris l'avenue de Breteuil, dont effectivement il peut paraître incongru d'être situé dans le 7e arrondissement. C'est effectivement un bien immobilier qui est détenu par les diocèses, puisque c'est un bien qui appartient au diocèse, mais qui a vocation là aussi à rassembler les services, à mener un certain nombre d'actions, de communications, de conventions, de rencontres à usage pastoral, qui réunit les réseaux diocésains, qui réunit l'ensemble de nos réseaux d'églises d'une manière générale au niveau national, donc qui est un lieu aussi de visibilité, de synergie et de rencontres. Donc voilà, c'est aussi un témoignage au niveau national de cette fécondité pastorale.
Alors, pour finir,
je voudrais préciser, sur l'aspect quand même financier, et pour illustrer mon propos en disant, j'affirme que l'Église en France catholique n'a jamais été aussi pauvre, c'est que nous avons aujourd'hui une moyenne de déficit d'exploitation, donc annuel, de l'ordre de 1 million d'euros par diocèse. Donc voilà, il y a cette réalité d'écart entre les charges courantes et les produits qui ne sont que les collectes que j'évoquais tout à l'heure, qui fait que les contraintes de gestion et les contraintes économiques sont très fortes.
Merci beaucoup. Je rappelle donc Corinne Boilet, vous êtes secrétaire générale adjointe de la Conférence des évêques de France en charge des questions économiques et juridiques. Maintenant, on va prendre par téléphone Thierry Seguin. Alors Thierry Seguin, vous êtes économe du diocèse de Montauban qui jouxte celui de Toulouse. Même question, est-ce que le diocèse de Montauban est riche? Est-ce que vous êtes en déficit? Quel est votre budget et comment expliquer un budget à plusieurs chiffres, j'imagine, pour des personnes qui sont dans le besoin? Alors ça fait beaucoup de questions en une.
Déjà, on ne vit que des dons, c'est-à-dire qu'en termes de ressources, les principales ressources sont le denier de l'Église, qui représente 1 million d'euros, les quêtes et casuels, qui représentent aussi 1 million d'euros, et les legs, qui sont une ressource incertaine, qui peuvent varier entre 0 et 1 million d'euros. On a en moyenne un déficit d'exploitation de 700 à 800 000 euros par an, ce qui veut dire que si on n'a pas un minimum de legs chaque année, on n'arrive pas à combler ce déficit et ça pose des soucis. Donc on a besoin en permanence de travailler pour à la fois rechercher des fonds des nouveaux donateurs et puis travailler sur la réduction des charges parce que sinon on n'y arrive pas. Donc on est contraint d'être inventif et de trouver des nouvelles solutions parce que nos donateurs vieillissent et donc nos ressources, on perd chaque année des donateurs. Donc il faut trouver des nouvelles ressources, donc c'est à chaque fois aussi compliqué.
Alors c'est pareil, les charges, quelles sont-elles? C'est essentiellement les salaires des prêtres et puis les bâtiments
à
rénover?
On a à peu près la moitié de nos dépenses de fonctionnement qui correspondent à la masse salariale des prêtres et des laïcs, sachant que dedans on intègre aussi, pour les prêtres âgés, les coûts des maisons de retraite, puisqu'une fois quand un prêtre est incardiné dans un diocèse, l'évêque a l'obligation de le prendre en charge jusqu'à la fin de ses jours. Et donc on a une moyenne d'âge de 78 ans, ce qui veut dire qu'on a la moitié de nos prêtres qui ont plus de 78 ans, ce qui veut dire aussi qu'il y a des coûts liés à la dépendance, au vieillissement, qu'il faut prendre en charge.
Sur les salaires des prêtres, est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur? Je sais pas, un prêtre touche combien par mois? Combien alors, vous lui versez?
Dans le diocèse de Montauban, parce que chaque diocèse est défini un peu ses modes de traitement, même s'il y a un minimum qui est demandé au niveau national, un prêtre à Montauban perçoit 1150 euros net par mois, dont 30 offrandes de messe à 17 euros.
D'accord, et il faut dire...
Pour l'activité, qu'il soit retraité.
Et il est logé gratuitement en plus ou...
Il est logé par le diocèse, effectivement. Ensuite, c'est à lui qu'incombe ses frais de nourriture et
d'accord.
ses frais de déplacement. Et s'il est amené à se déplacer au niveau professionnel pour la paroisse, ces frais sont remboursés par la paroisse.
D'accord, donc c'est nourriture et comment dire et usage personnel hors logement, on va dire, et hors déplacement de paroisse.
On permet aux prêtres de vivre confortablement et de pouvoir exercer leur mission dans des conditions normales.
Voilà, sachant qu'ils ont, enfin, ils ont globalement quand même une vie quasiment de chef d'entreprise, hein. Faut aussi le préciser. Je ne sais pas, pour le diocèse de Montauban, est-ce que vous avez des exemples d'investissement ou des exemples d'économie que vous pourriez citer?
Alors, on renégocie régulièrement les contrats dès qu'ils arrivent à échéance. Là, on a travaillé sur deux sujets qui étaient à la fois le gaz et l'électricité. Donc on a négocié pour le diocèse et pour l'ensemble des paroisses qui étaient concernées au niveau du gaz de ville un contrat avec une entreprise où on a les prix qui sont bloqués pendant un certain nombre d'années. Et ça nous permet de faire 8% d'économie et de nous garantir les prix stables pendant 4 ans. On a fait la même chose avec EDF, ce qui va nous permettre de faire à peu près 4 à 5% d'économie. Mais comme les prix évoluent et beaucoup, ça nous permettra aussi de sécuriser les augmentations futures pendant 4 ans. Il faut prendre tous les contrats et on renégocie tout, parce que de toute façon, nos ressources, on dépense toujours trop. Ce qui est compliqué, c'est qu'on vit encore de façon trop riche avec les moyens qu'on a, puisqu'on perd 800 000 euros par an, ce qui veut dire qu'on dépense trop, mais on n'est pas suffisamment pauvre pour pouvoir supprimer un certain nombre de dépenses aujourd'hui et pour pouvoir vivre sans. Donc c'est un exercice compliqué, parce que dans les dépenses que le diocèse doit supporter, il n'y a finalement pas beaucoup de marge de manœuvre, puisque les traitements des prêtres, on n'a pas tellement le choix. On finance aussi quelques communautés religieuses, on finance aussi des services et des mouvements pour l'action pastorale, donc on ne peut pas non plus supprimer les financements pour les actions pastorales. On finance aussi au niveau de la province, le Grand Séminaire, l'Institut catholique de Toulouse, on participe aussi à Radio Présence.
Et on vous remercie.
National, au niveau national, on participe aussi au financement de la Conférence des évêques de France. Et puis on reverse chaque année une quête de 5 à 6 000 euros qui est versée pour le financement de Rome et du Saint-Siège.
Eh ben, merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci à nos deux invités, la Corinne Boylet, donc je rappelle, qui était secrétaire générale adjointe de la Conférence des évêques de France, et vous, Thierry Seguin, qui est économe du diocèse. On va faire une deuxième pause et puis on va s'intéresser à cette journée mondiale du refus de la misère et cette veillée du lundi 17 octobre prochain.
Que toute la terre
Pella.
Voilà, ce matin, donc, cette émission Vivante Église, une église pauvre pour les pauvres, qu'est-ce à dire? Donc, en vue de la prochaine journée mondiale du refus de la misère, lundi prochain, avec une grande veillée à la cathédrale Saint-Étienne qui aura lieu à partir de 18h30, on va en parler tout de suite. Je vous rappelle, si vous nous prenez en cours de route, qu'autour du plateau, il y a Sœur Anne, qui est sœur de la Bonne Nouvelle, proche du Quart-Monde, Sébastien Combre, qui est responsable du service de la diaconie pour le diocèse de Toulouse, Claudine Martin, qui est membre entre autres de la famille Bartimée, et Corinne Battista, qui est chrétienne du Quart-Monde et membre de Bonne Nouvelle Quart-Monde. Alors Sébastien, cette journée mondiale du refus de la misère, dites-nous, qu'est-ce que c'est? C'est une tradition, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été créée et pourquoi chaque année il y a cette journée et quelle importance a-t-elle?
Oui, alors en fait c'est une journée internationale, une journée mondiale du refus de la misère, qui est une journée qui est à l'ONU, hein. Qui est proposé à toutes les associations qui œuvrent avec des pauvres et qui sont dans une dynamique de lutte contre la misère, mais une lutte contre la misère avec les pauvres, quand les pauvres sont partenaires de cette lutte contre la misère. L'intuition vient du père Joseph Brzezinski, qui a inauguré une dalle en 87 au Trocadéro.
Voilà, qu'on citait au début de l'émission, hein, qui est un prêtre et qui était à l'origine d'Athée
des Quart-Monde. Voilà. Et sur cette dalle, il y a 100 000 personnes qui se sont réunies ce jour-là. Sur cette dalle est gravé, là où des hommes et des femmes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont bafoués, s'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Et donc 100 000 personnes se sont retrouvées, et puis avec le temps, cette journée est devenue journée mondiale du refus de la misère. Nous, groupe qui cheminions avec des pauvres, mais dans la spiritualité de l'Église catholique. Enfin, on s'est dit que c'était important de prier aussi ce jour-là. Voilà. Alors, il y a des choses qui sont faites partout dans le monde, partout en France, et notamment à Toulouse. Hein.
Mais c'est vraiment un grand rendez-vous de toutes les associations qui œuvrent, on va dire, au service ou avec les plus pauvres.
Bah, c'est une journée mondiale. C'est-à-dire que, comme toutes comme la journée de la femme ou la journée contre la tuberculose, c'est une journée où on prête plus particulièrement une attention, on porte une attention un peu plus particulière, mais cette attention, elle est signe d'une attention qui est portée tout au long de l'année. Voilà. Donc, c'est un grand rassemblement pour ces associations qui ont le souci que les plus pauvres puissent dire leurs pensées. Voilà.
Alors, il faut préciser que, enfin, il y a une différence entre misère et pauvreté. Ouais. Ça paraît bateau pour certains de le dire, mais pour d'autres moins. Quelle distinction vous faites et en quoi la misère, entre guillemets, il faudrait idéalement ne jamais s'y habituer?
C'est vrai que là, vous posez une question qui est compliquée parce que les mots sont toujours piégés. Alors, on utilise misère, on utilise pauvreté, les plus pauvres, le plus pauvre, etc. Mais d'une façon générale, la misère, on en est victime. La misère, c'est quelque chose qui est à éradiquer. Pour nous chrétiens, on pourrait faire le parallèle en se disant que la misère finalement est due au péché de l'homme. Jean-Paul II parlait des structures du péché. C'est une construction économique de la société, politique, sociale, qui fait que, eh ben, certains, c'est pas forcément une question d'argent d'ailleurs, hein, certains n'ont pas voix au chapitre et sont mis de côté. Ce qu'on associe le plus souvent à la misère, c'est la honte. Voilà, moi, j'entends souvent ça. Quand j'étais dans la misère, j'avais la honte. J'avais la honte que mes enfants soient placés, qu'on me juge pas capable de les élever. J'avais la honte de devoir quémander pour pouvoir payer mon loyer. J'avais la honte d'habiter tel quartier. J'avais la honte de pas pouvoir payer cette facture, de pas avoir telle PlayStation ou telle chose. C'était plutôt la honte plutôt que le... Et donc la honte, ça s'apparente aussi au fait d'être en relation avec les autres. Et d'une relation qui est pas forcément bonne, une relation où on se sent exclu.
Et alors, oui. Pardon, allez-y, continuez.
Et en fait, je crois que l'intuition du Père Joseph est dans la lignée de tous les mouvements dont vous parliez tout à l'heure, famille Brzezinski, c'était de rassembler des personnes qui vivaient cette honte pour se dire déjà, ben, je suis pas le seul à la vivre. Il y en a d'autres qui la vivent avec moi. Et puis finalement, je suis pas responsable de ce que je vis, j'en suis victime, et que ensemble, avec d'autres qui vivent la même chose que moi, on pourra lutter et dire quelque chose au monde. Et donc tout ça se joue dans le rassemblement, quand des gens qui vivent la même chose, qui vivent des galères, qui vivent des pauvretés, se retrouvent ensemble et puissent discuter, font quelque part une pensée se crée, se naît, et ensuite on peut interroger le monde, l'Église.
Alors, je vais vous donner la parole tout de suite, hein, Claudine Martin et Corinne Battista, même si on vous a entendu au début de l'émission, je vous oublie pas. J'avais une autre question juste avant, Sébastien. Le pape, donc, on l'a dit en introduction de cette émission, c'est d'ailleurs son titre, aspire à une église pauvre pour les pauvres. Alors, certains se disent le pape fait son job, d'autres disent il le fait particulièrement bien parce que ça fait du bien de l'entendre, de le réentendre avec insistance. Est-ce que vous avez l'impression, vous, Sébastien, que... on y est ou si oui, sinon quel chemin il reste à parcourir?
On est dans le fait de vivre une église pauvre pour les pauvres.
Oui.
On le vivra jamais, seulement quand on sera dans le royaume. Ce que le pape demande, oui, il fait son job. Il dit ce qu'est l'église. L'église, elle est en construction, elle est en mouvement vers le royaume. Et le royaume, qu'est-ce que c'est? À part riches et pauvres chantent et dansent ensemble. Et pour que les riches et les pauvres soient rassemblés ensemble, il faut commencer par les plus pauvres. Parce que sinon, on en oubliera tout le temps. Voilà. Donc effectivement, il fait le job, il le fait bien, il le fait dans une continuité avec d'autres papes. Benoît XVI a remis en valeur la diaconie, le Triam Numera, comme la diaconie comme un des piliers de l'Église, et le pape François l'incarne particulièrement bien.
Est-ce que vous avez, je vous pose la même question, mesdames, est-ce que vous avez l'impression que l'Église est pauvre et qu'elle est pour les pauvres? Est-ce que vous qui en faites partie, vous dites oui, ça va. Allez-y, commencez, Corinne Battista.
Moi, au début, c'est pas l'impression que j'ai eue. Maintenant, si, c'est vrai. Plus en plus, je m'aperçois de ça. Je m'aperçois que les gens sont plus à l'écoute des personnes qui en ont besoin. Il n'y a qu'à voir, par exemple, pour le 17 octobre, on a de plus en plus de personnes qui viennent écouter ce qu'on a à dire pour qu'ils comprennent. Puis à la fin, ben, comme on fait le petit pot de l'amitié, ils viennent nous parler. Et donc, ça nous permet de voir qu'on peut être comme tout le monde. C'est pas parce qu'on n'en a pas de sous dans notre porte-monnaie qu'on n'a pas de cœur, qu'on n'a pas de croyance, de foi. Et donc, grâce à ça, on peut s'exprimer normalement. Je m'en suis aperçue aussi quand j'étais dans le groupe Assez Parole des Pauvres National pour Diaconia. Il y a beaucoup de grandes personnes, des patrons d'entreprises que j'ai fréquentés rapport à ça, qui nous ont parlé sans chercher leurs mots, naturellement. En plus, on voyait que c'était pas des personnes qui cherchaient à se montrer, pas du tout. Au contraire, ils nous mettaient, nous, en valeur. Et ça, c'est important. Voilà, c'est ça que je cherchais, moi, dans l'Église. C'est plus avoir ce regard, de nous regarder de haut en bas, parce que on n'était pas, rentrait pas dans les normes de sécurité, comme on dit. Et que quand, en plus, j'entends dire, oui, mais les pauvres, j'ai fait, oui, mais si tu lis la Bible, trouve-moi un seul endroit où on n'en parle pas. Si tu me trouves un truc que Jésus a dit, ce qui ne parle pas des pauvres, tu me le dis.
Claudine Martin, est-ce que vous avez la même impression? Est-ce que vous avez l'impression que l'Église est pauvre et qu'elle est pour les pauvres? Est-ce que vous vous sentez bien dans l'Église?
Ah, très bien. Je me sens très bien dans l'Église. J'en suis fier d'aller dans une Église. Pour les pauvres, oui, parce que bon, il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, mais lesquels pauvres? Parce qu'il y a les pauvres, pauvres. Parce que les vrais, moi, pour moi... Les vrais pauvres, ils ne rentreront pas dans l'Église.
Pourquoi?
Parce que déjà, ils vont être mal, ils seront mal habillés, ils n'auront pas de chaussures, ils ne seront pas lavés, et tout ça. Mais moi, pour moi, c'est ça. Et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Qu'ils soient mal habillés ou pas, il faut les accepter comme ils sont, qu'on soit pauvre ou riche.
Alors, on sait que, donc, Sébastien l'a dit, hein, la Journée mondiale du refus de la misère et cette veillée du 17 octobre, le but, c'est aussi de vous donner la parole, comme on le fait là,
oui.
D'entendre ce que vous avez à dire. Vous allez partager, entre autres, ce que vous avez préparé, l'écho qu'a trouvé en vous ce passage de l'Évangile en Luc 15, 4-10 sur la brebis perdue. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, à force de lire cette parole ou à force d'en discuter avec Sébastien, nous dire en primeur un peu ce que vous allez partager sur cette brebis perdue.
Mais
Claudine Martin.
Voilà, la brebis perdue.
Allez-y.
Pardon.
Voilà, la brebis perdue, voilà, je me suis imaginé que c'était moi la brebis. Comme je ne sais pas lire ni écrire, hein, la brebis c'était moi. Et qui cherche son chemin pour rentrer dans une église. Et il y a une personne, cette église sort et vient me chercher. La brebis pour moi, c'est moi.
Corinne Battista, même question. Comment vous comprenez ce passage d'évangile ou qu'est-ce que vous allez partager lundi ?
Moi, ça me fait revenir aussi un peu à ce que le pape nous a demandé quand on est allé le voir. Il nous demande de pardonner à des personnes, enfin de prier pour des personnes qui nous ont fait du mal. Comme moi, par exemple, je suis une enfant placée avec des enfants qui ont été placés, un petit-fils qui est placé. Et je disais, mais moi, pardonner à des personnes comme ça, c'est même pas la peine d'y penser. Hein. Les personnes qui ont placé mes enfants, mais je suis pas d'accord. Et j'ai réfléchi à ce que disait le pape, et c'est ça. C'est pouvoir leur pardonner, parce que c'est pas possible de... Avant d'être des personnes qui placent nos enfants, c'est quand même un être humain, une personne avec une pensée propre, et c'est pas parce qu'il est comme ça devant son bureau qu'il est comme ça dans sa vie. Et moi, je pense que ça serait bien d'aller chercher celui qui en a besoin. Comme par exemple, Claudine disait tout à l'heure, les pauvres, on les laisse à la porte. Moi, ça me faisait penser à l'une de nous qui était dans le groupe Placer Parole des Pauvres Nationales, qui est un jour rentrée avec une personne pauvre dans l'église. Il y avait une personne qui faisait le ménage et qui dit « Ah, mais cette personne ne doit pas rentrer ». Et donc, mon ami a dit, mais il a le droit parce qu'il est propriétaire et vous êtes que locataire. Et il est rentré dans l'église et tous les dimanches, il faisait peut-être sa quête devant, mais il rentrait dans l'église et cette personne s'est trouvée valorisée parce qu'elle avait l'impression d'être comme tout le monde. Et ça, c'est important.
Voilà, et ben merci beaucoup à nos invités d'être venus nous parler ce matin, donc de répondre, essayer de répondre à cette question. L'église est-elle une église pauvre pour les pauvres ? Je rappelle donc la veillée de prière qui a lieu à Toulouse à 18h30 à la cathédrale Saint-Étienne lundi prochain. Voilà, à laquelle vous êtes tous invités à l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère. Et puis les textes qui ont été cités au début d'émission par Sœur Anne, donc discours du pape François à la famille Wrzesinski, va-t-on dire, sont disponibles sur le site de la Diaconie. Merci beaucoup à tous nos invités. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.